De notre Père des cieux, ce Père plein d'amour qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque parmi nous croit en lui possède cette vie éternelle. Et comme je vois qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu assister à nos précédentes rencontres, le Seigneur me montre que je dois vous lire encore une fois ce chapitre 4. Et ceux qui trouvent qu'ils le savent déjà, eh bien, je leur dirai, levez-vous et répétez-le. Et je vois qu'il n'y a pas de menteur. Car voyez-vous, pour que la parole nous pénètre, il ne faut pas la lire une fois, deux fois, ou trois fois. Il faut en faire vraiment la lecture quotidienne pour qu'elle nous remplisse. Soyez remplis non seulement de l'esprit, mais que la parole habite en vous, dit l'Écriture, richement. Et alors, le Saint-Esprit nous rappelle, parce qu'il devient notre mémoire, il nous rappelle un texte dont nous nous emparons et nous allons à Dieu avec cette parole. Et nous lui demandons de l'accomplir. Et il le fait. Le croyez-vous? Voulez-vous le réaliser? Eh bien, faites-le. Vous prenez une parole que le Seigneur vous donne dans l'Écriture, vous allez aller avec cette parole, puis vous lui dites, tu l'as dit, Seigneur. Il y va de ta gloire que tu l'as conquis. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour que le monde sache que notre Dieu est un Dieu vivant qui connaît nos besoins et qui veut nous bénir. Alors, je vous relis d'abord ce chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, qui nous présente Jésus comme étant le Fils unique de Dieu, mais qui souligne en même temps que tout en étant Dieu, comme nous l'avons souligné, il est un homme. À quoi l'avons-nous vu? Après une marche, il est fatigué dans le chemin. C'est le Dieu qui s'est fait homme. Mais, comme sa divinité est une réalité, son humanité reste aussi toujours une réalité. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement heureux. Quand je m'approche du Seigneur, je sais qu'il peut me comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Moi, je suis un homme. Je suis limité. Mais le Seigneur aussi, en tant qu'homme, a été limité. Et à certains moments, on le voit soupirer après la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Et tout cela, il l'avait quitté, il s'était anéanti pour venir vivre comme un homme. Et il se trouvait ici-bas en figure comme un homme. De sorte que, si vous voulez voir ce que Dieu peut attendre d'un homme, qui devez-vous contempler? Jésus, le Fils unique du Père, qui a vécu pour faire la volonté de Dieu. Alors, nous allons relire ce chapitre. Et je demande à Dieu que par son esprit, vous-même, vous vous arrêtiez à un texte qui vous parle et que vous le gardiez ce soir. Parce qu'il n'est pas question que vous disiez que vous avez assisté à des conférences d'un tel homme, mais pour que vous disiez, nous avons médité le chapitre. Oubliez-vous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez reçu de ce chapitre 4? Non pas qu'est-ce que vous avez reçu de moi, mais qu'est-ce que vous avez reçu de personnel, d'enseignement de ce chapitre 4? Et nous le lisons maintenant en nous confiant dans le Seigneur et en lui demandant vraiment d'exaucer notre prière. Mais s'il y avait quelqu'un ici, je vous le dis tout de suite, qui a de la peine à pardonner à un frère ou à une sœur, vous êtes obstacle à l'exaucement de prière. Pourquoi y a-t-il tant de prières qui ne sont pas exaucées? L'Écriture nous le dit très clairement. Si nous ne pardonnons pas à notre frère ou à notre sœur qui a pu nous offenser, nous ne serons pas exaucés. Et vous savez, c'est quelque chose. Voulez-vous être exaucé? Demandez à Dieu qu'il vous donne l'esprit de pardon et que vous sachiez pardonner à votre frère et à votre sœur. Non pas parce qu'il est nécessairement venu vous demander pardon, vous pouviez attendre des fois longtemps, mais si vous avez le pardon dans votre cœur, pour quelle raison? Parce que Dieu vous a pardonné, parce que vous savez de quoi il vous a pardonné. Alors, il y a la possibilité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comprenons-le bien. Alors, nous voudrions que ce soir, ce soit une soirée d'exaucement de prière. Êtes-vous d'accord? Personnellement. Alors, nous lisons. Chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Le Seigneur sut que les pharisiens, donc la secte la plus exacte, qui suivait les traditions des pères, avaient appris que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Il était venu en Judée où il était né, à Bethléem de Juda. Il avait à Jérusalem fait des miracles et il avait rencontré des âmes qui cherchaient à le connaître. Mais quand il apprend que l'on dit qu'il fait plus de disciples que Jean le précurseur, il ne veut pas encourager cette propagande pour lui-même, alors il s'est quitté la Judée et repartir pour la Galilée. Et je crois que nous devons trouver déjà là un enseignement au sujet de nos collaborations que nous pouvons avoir entre frères. Il n'est pas question de concurrence, que l'un ait plus de fruits que l'autre, il est question que Dieu soit glorifié. Et c'est lui qui sauve les âmes et ce n'est pas nous. Or, il fallait, pour qu'il s'en aille, qu'il traverse la Samarie. Nous avons vu que ce n'était pas absolument nécessaire de traverser la Samarie pour aller dans la Galilée. On pouvait s'y rendre par le bord du Jourdain, mais pour Jésus, cela était nécessaire. Pour quelle raison ? Vous pouvez y songer, y penser. Il avait une âme qu'il allait rencontrer et qu'il allait sauver. Et ça, c'est quelque chose. Ça devient une obligation quand on doit rencontrer une âme. C'est ça qui doit compter d'abord. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar. Nous avons souligné que Sichar n'était pas la capitale de la Samarie, c'était Sichem. Le mot Sichar, c'était Sichem. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, et nous avons souligné que la sixième heure, c'était midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc Jésus était seul. Cette femme arrive seule. Elle fait cette rencontre à laquelle elle ne s'attendait pas. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, elle a reconnu que j'étais un juif qui était assis là, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, elle l'a observé. Elle voit qu'il n'a rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Est-ce que vous voudriez que ce soir il se passe une chose pareille, que dans vos cœurs jaillisse une source d'eau qui jaillit en vie éternelle? Pour quelle raison? Parce que vous aurez bu l'eau que Jésus donne, parce que vous aurez cru les paroles du Seigneur dans ces textes. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. Et nous avons souligné que le Seigneur laissait partir la femme. Il lui disait même s'en aller pour revenir. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit que j'aime cette parole. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu ce mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il ne l'a pas traité de menteur, comme nous aurions fait si facilement. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle se trouve tout à coup découverte. Comment sait-il qu'elle a eu un mari? Comment sait-il que celui avec qui elle vit n'est pas son mari? Donc elle n'est pas dans une situation régulière. Chez le prophète. Elle a vu d'abord un juif, ensuite elle l'a appelé Seigneur, puis maintenant elle déclare qu'il est prophète. Il y a tout un travail qui se fait en elle. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant, et nous espérons bien que demain matin, ce sera encore maintenant, puisque nous serons ici pour adorer. Nous ne serons pas à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, mais c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Comprenons-nous ça ce soir? Le Père recherche quoi? Les adorateurs. Ici, dans notre Québec, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si vous saviez comme je souffre, en entendant une foule de gens parler de ce qu'ils adorent, ils ne peuvent pas dire une chose quand ils disent « j'adore, 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 j'adore ». Nous sommes en plein paganisme. N'importe quoi ils adorent. Que ce soit le chocolat, que ce soit le cinéma, que ce soit le sport, on adore. Mais Dieu n'est pas adoré. Avant, on parlait encore de la prière. Maintenant, il semble qu'on n'ose plus parler de la prière. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on croise les doigts. C'est une façon de prier, de croiser les doigts. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. La femme lui dit, je sais que le Messie vient. Donc, il y a des choses qu'elle sait. Et nous vous soulignons que les Arabes, eux aussi, croient à la venue du Seigneur. Celui qu'on appelle le Fils, je sais qu'il vient. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Encore mieux qu'un prophète. Jésus lui dit, et c'est ça qui est merveilleux, je le suis moi qui te parle. Il n'a pas dit cela à Nicodème, l'homme religieux. Il lui a dit, toi, il faut que tu renaisses, que tu naisses de nouveau. Ta religion ne te sauve pas, au fond. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend rien. Comment ces choses peuvent se faire? Tandis qu'à la Samaritaine, une païenne, demi-païenne, eh bien, il se révèle. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche. Sa cruche, c'était son souci quotidien. Elle venait chaque jour à ce puits, à un moment où personne ne pouvait la rencontrer. Et c'était pénible pour elle. C'était son souci. Elle laisse sa cruche. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle a été touchée, car le Seigneur a voulu la toucher dans sa conscience. Il n'a pas voulu la laisser partir sans autre. Il lui a parlé de celui qui n'était pas son mari. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. On s'est occupé de ça cet après-midi. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Eh bien, c'est ce que nous demandons au Seigneur ardemment, que dans cette soirée, vous puissiez encore discerner que faire la volonté de Dieu, c'est vraiment se nourrir. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Le Seigneur a une vision. C'est pas pour plus tard, mais bientôt, très bientôt, vous aurez la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Jésus a vu que cette femme s'ouvrait à lui et il peut dire déjà que la vie éternelle lui est donnée. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Et qu'est-ce qu'elle disait? Quand vous devez rendre témoignage, qu'est-ce que vous pouvez dire? Dire quelque chose de vrai. Elle dit quelque chose de vrai. Elle n'a pas besoin de composer quelque chose. Elle dit ce qu'elle a ressenti. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est clair. Elle est convaincue. Et alors, quand on est convaincu, on sait convaincre les autres. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ça encore, c'est quelque chose de magnifique. On lui demande de rester. Alors que si souvent, on a voulu qu'il s'en aille. Là, chez les Samaritains, chez ces inconvertis, on lui demande de rester. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. De quelle parole? La parole de la femme? Non, la parole que Jésus leur a donnée pendant ces deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme, et c'est ça qui est merveilleux, ce n'est pas à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Eh bien, ce soir, je voudrais vous parler de deux choses que nous retrouvons dans ce chapitre. Je voudrais vous parler de la Samarie, tout d'abord, et de certains passages qui pourraient nous rendre perplexes si nous les isolons. Quelle était l'attitude de Jésus au sujet de la Samarie? Et vous allez bien vite comprendre. Je me souviens d'un jour à Nice, en France, sous une grande tente où il y avait plus de 1000 personnes, on nous avait demandé de prêcher sur cette parole du Christ qui empêchait les Juifs d'aller en Samarie. Vous connaissez le passage? Matthieu 10, verset 5. Les 12 ont été nommés, choisis par le Seigneur, et au verset 5, nous lisons, chapitre 10 de Matthieu, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, comment comprenez-vous ça? Est-ce que Jésus n'aimait pas les Samaritains? Est-ce que Jésus ne voulait pas que ses disciples aillent annoncer la parole en Samarie? Si vous en restiez à ce passage, vous pourriez en tirer cette conclusion. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur empêchait ses disciples au commencement d'aller chez les Samaritains? Parce que ils auraient été un obstacle à leur conversion. Tout simplement. Les disciples n'étaient pas prêts pour ce ministère. Les disciples n'étaient pas prêts pour aller parler aux Samaritains. Car nous avons un autre texte qui va éclairer ce sujet. Chapitre 9 de Luc, au verset 52. Luc 9, prenez le verset 52. Il est parlé là d'un village des Samaritains. Verset 51 déjà. Lorsqu'ils approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de lui consumer ?» il se tourna vers eux et les reprit sévèrement, leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Vous voyez, étant donné qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs, c'était difficile de parler aux Samaritains pour un Juif ou pour un Samaritain d'entendre parler un Juif. Alors, Jésus, sachant toute chose, sait qu'ils ne sont pas prêts pour un tel ministère. Il veut les former lui-même. Et c'est là que nous voyons dans le chapitre 4 de Jean la méthode que Jésus emploiera. Lui va parler à la Samaritaine. Et la Samaritaine va être étonnée qu'un Juif lui parle, parce que ça ne se faisait pas. Alors, tant que vous n'êtes pas capable de parler à une âme, il vaut mieux vous taire. Et puis, si vous voulez la convertir à toute allure, et que, après votre premier entretien, vous voulez gratter, comme on le disait cet après-midi, tout de suite pour voir si la semence germe, vous allez tout détruire. Vous allez tout détruire. Alors, apprenez du Seigneur comment vous devez vous approcher des âmes, et n'isolez pas un passage, mais cherchez à comprendre pourquoi le Seigneur faisait un obstacle. Parce que quand ses disciples ont vu qu'on refusait un logement au Seigneur parce qu'il avait simplement le visage tourné du côté de Jérusalem, il allait à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Les exterminer. Vous ne voulez pas du Seigneur. Et nous, chers amis, je l'ai dit quelquefois, quand on a annoncé l'évangile à une âme, puis qu'elle nous résiste, qu'est-ce qui nous arrive? Nous lui faisons les grimaces d'un damné. Puisque tu n'acceptes pas ma parole, eh bien voilà ce qui va t'arriver. Et tu vas grandir, dans le sable. Et puis, tu vas grincer des dents. Et on lui fait toutes ces grimaces-là. C'est ça notre manière d'évangéliser. Parce qu'on veut du fruit immédiat. Et c'est là qu'on est à côté de la parole. Oh, que le Seigneur parle à nous. Et que vous vous souveniez de ce jeune homme qui vient vers Jésus et qui lui dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu connais les commandements, puisque tu veux faire quelque chose. Tu sais quels sont les commandements. Et puis, le jeune homme répond au Seigneur, mais j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Une des tables des commandements, il les avait gardées. Jésus ne conteste pas, mais lui dit, bien, une chose te manque. Parce que le jeune homme a dit, est-ce qu'il me manque encore quelque chose? Que me manque-t-il encore? Vous connaissez le passage. Une chose te manque. Va. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et le jeune homme, qui avait de grands biens, affligé par cette parole, parce qu'il n'est pas prêt à tout donner, il s'en va tout de suite. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Que Jésus, qu'il avait regardé, il l'avait aimé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et on ne peut pas avoir un visage qui vous aime sans s'en souvenir. Il se sentait aimé du Seigneur. Et alors, le souvenir que le jeune homme riche a pu garder, c'est le souvenir de l'amour. Et qui vous dit qu'un jour, quand il a eu perdu tout son argent, il ne s'est pas souvenu de ce sourire d'amour de Jésus pour se tourner vers lui. Alors, laissons-nous enseigner par la parole. Et ne soyons jamais de ceux qui, parce qu'on nous résiste après une prédication ou après un enseignement, et qui menaçons simplement des peines éternelles, le la personne qui ne veut pas se donner à ce moment-là. Prenez maintenant au chapitre 10 de Luc encore, au verset 33e. C'est la parabole du bon samaritain, vous la connaissez. Et vous savez que Jésus a présenté, je lis au chapitre 10, un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Puisqu'il prétend qu'il peut faire quelque chose, bien, Seigneur, je renvoie à la loi. Mais lui voulut se justifier, et il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et qu'est-ce que l'on va apprendre? Quel est l'exemple que Jésus va donner? Qui est mon prochain? Je trouve que c'est merveilleux, ça. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, donc un homme qui connaissait toute la loi, descendait par le même chemin et il vit cet homme et passa outre. Un lévite, qui avait aussi des fonctions dans le temple, arriva de même à cet endroit. Il vit le blessé et passa outre. Mais un samaritain, un de ces hommes qu'on méprisait, que les juifs ne voulaient pas saluer, un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Il le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Puis il ajoute, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Comment avez-vous compris ce verset? Quand le Seigneur demande qui a été le prochain, il y en a qui pensent que c'est le prochain, c'était l'homme tombé entre les mains des brigands. Mais pas du tout. Qui a été le prochain de l'homme qui était tombé? Le Samaritain. Et il veut amener ces gens à reconnaître qu'un Samaritain peut être le prochain. C'est merveilleux. Voilà l'enseignement du Seigneur. Et il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même, fais comme le Samaritain. Il a donné l'exemple de ce qu'on devait faire, alors que des Juifs qui avaient toute la connaissance ne marchaient pas selon ces principes. Prenez encore au chapitre 17e de Luc. Pour que vous puissiez voir l'attitude de Jésus vis-à-vis des Samaritains. Chapitre 17 de Luc. C'est dans la guérison des 10 lépreux. Verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Vous ne trouvez pas que c'est beau, la parole qui relève ces choses? C'était justement un de ces gens qu'on ne voulait pas nommer. C'était un samaritain qui est venu à rendre grâce. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Que c'est beau, la parole. Mais voyez-vous, il faut la voir tout entière. Alors, je reviens maintenant à notre chapitre 4 de Jean, qui nous montre le Seigneur assis au bord du puits à la 6e heure et qui rencontre cette femme de Samarie. Et la femme est étonnée parce que elle voit bien que c'est un juif et il lui demande à boire. Et ce que nous disions cet après-midi, il lui a montré qu'elle existait pour lui. Cette femme que l'on méprisait, que l'on rejetait, elle avait une raison d'être. N'est-ce pas merveilleux? Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Moi qui suis une samaritaine, elle sait bien ce qu'elle est. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le don de Dieu? Dans le chapitre 6 des Romains, il est dit, le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive, comme nous l'avons chanté. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et du plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils, et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit juste dans la vie éternelle. Alors la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Est-ce qu'il y aura ici des âmes qui ce soir disent dans leur cœur, Seigneur, donne-moi cette eau? Vous direz, mais il y a longtemps que j'ai bu. Alors vous n'avez plus soif. C'est biblique, hein, vous ne devriez plus avoir soif. Mais boire, c'est croire, et croire, c'est être renouvelé sans cesse par la parole, qui est la vérité, et c'est en vivre. La parole n'est plus dans le livre, la parole est dans votre vie. Et jour après jour, dans la course, vous rappelez au Seigneur ses paroles. Et alors, au verset 38e, nous lisons encore dans ce chapitre 4, je vous ai envoyé moissonner ce que ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Et si vous allez plus loin, vous voyez qu'après la Pentecôte, il y a eu un merveilleux réveil dans cette Samarie, et celui que Dieu a employé s'appelait comment ? Un diacre, Philippe, chapitre 8 des Actes. Et vous voyez comment Jésus a préparé le travail en Samarie pour que d'autres puissent moissonner. Et il y a eu une grande moisson. Philippe, chapitre 8 et 20. Descendu dans une ville de Samarie, il prêcha quoi? Le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. C'est beau, il n'est pas dit qu'il s'attachait à Philippe, il s'attachait à ce que disait Philippe, donc à la parole, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une forte voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait « Quelqu'un de grand, oh mes amis, que vous puissiez toujours rester petit à vos propres yeux devant le Seigneur. » Tous depuis plus petit jusqu'au plus grand s'approchaient de lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Jérusalem, que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent l'Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Et nous avons vu cet après-midi qu'il faut savoir dire non, même à ceux qui pourraient nous offrir de l'argent. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant quoi? Plusieurs villages de Samaritains. Le Seigneur a donné l'exemple. Et maintenant, cela est prêt. Maintenant, il peut se faire une œuvre qui sera à la gloire de Dieu. Il y a eu des semeurs, et puis il y a les moissonneurs. Alors, j'avais à cœur de vous montrer ces quelques textes et qui nous permettent de voir ce que Jésus a fait pour la Samarie et l'exemple qu'il nous a donné. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17e, dans les versets 25 à 41, que nous trouvons l'histoire de la Samarie. Ces Samaritains, c'était des gens qui avaient été transportés. Chapitre 17, je veux simplement le lire pour que vous ayez bien la pensée, non pas de l'homme, mais ce que le Seigneur nous dit. Vous avez au chapitre 17 du deuxième livre des rois, l'histoire des Samaritains. Le roi d'Assyrie, verset 24, fit venir des gens de Babylone, de Kuta et de Ava, de Hamath et de Sépharim. Il les fit habiter dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Donc on est en pleine actualité, il y a des déportés un peu partout. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ses villes. Lorsqu'ils commencèrent à habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On le dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Et le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous avez déporté de là et qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Elles les placèrent dans des maisons de hauts lieux bâties par les Samaritains dans les villes où chacune des nations habitait. Les gens de Babylone firent Sukkot, Benoth, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux de Ava firent Niblat, Tarba, ceux de Sépharim brûlaient leurs fils par le feu, en l'honneur d'Adramélec et Anamélec, dieu de Sépharim. Ils craignaient aussi l'Éternel. Vous voyez, ils avaient une religion complètement mélangée. Et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs de haut lieu, pris un peu partout. Ces sacrificateurs étaient en activité pour eux dans des maisons de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations où ils avaient été déportés. Alors, c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner. Nous n'avons pas à offrir un culte mélangé. Et nous espérons que demain, nous aurons vraiment le bonheur d'apporter un culte en esprit et en vérité, comme le Seigneur le désire. Mais c'est pour vous montrer pourquoi il n'y avait pas au temps de Jésus, entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de contact. Et pourtant, le Seigneur aimait les Samaritains. Verset 41, il est dit, « Ces nations craignaient l'Éternel et rendaient un culte à leur statue, leurs fils et les fils de leurs fils agissent jusqu'à aujourd'hui, comme leurs pères ont agi. » C'est ce qui était arrivé au temps de Jésus. Alors, Jésus vient, et puis il parle aux Samaritains. Cette femme est touchée, elle se convertit, et elle devient l'évangéliste des Samaritains. Et maintenant, après vous avoir donné ces exemples, je voudrais terminer en vous disant ce qui m'est arrivé il y a bien des années quand je dirigeais un camp en France. Je devais parler sur la Samaritaine. Et ces jeunes gens, ces jeunes filles connaissaient bien cette histoire Et à un moment donné, je suis parti dans les champs, sous un arbre, avant la réunion, et j'ai crié à Dieu en lui disant, qu'est-ce que je peux leur dire sur la femme samaritaine? En particulier, sur ces saints maris, est-ce que je dois leur dire qu'elle s'est mariée plusieurs fois, qu'elle est devenue veuve, ce qui était possible, ou bien qu'elle s'était divorcée? Au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a eu saint mari. Et je me suis souvenu que dans toutes les histoires de l'Ancien Testament, il y a une application spirituelle. Alors quand je priais, je demandais au Seigneur quelle est la citation, l'explication que je peux donner au sujet des saints maris, spirituels. Le Seigneur m'a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un mari? C'est ce que toute jeune fille désire, hein, peut-être. Ah, si j'avais un mari. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, cet après-midi, c'est pas le mariage qui donne le bonheur, c'est celui qui a institué le mariage. Et c'est cela que nous devons bien comprendre. Mais voilà, beaucoup pensent que le mari va leur donner le bonheur. Puis c'est une déception. Alors s'il meurt, c'est presque un soulagement. Mais, comme on en voudrait quand même encore un, on en prend un autre, qui est peut-être plus gentil, plus aimable. Puis voilà, ça ne va pas non plus. Ou il meurt, ou on divorce. Puis il y en a un troisième, il y en a un quatrième, mais c'est toujours en vue du bonheur. Qu'est-ce qu'un mari peut donner? Selon l'Écriture, qu'est-ce qu'il est dit au sujet des maris? Marie, aimer, au fond, ce qu'on cherche, c'est l'amour. Ah, si je pouvais trouver l'amour. Éphésiens, chapitre 9. Elle a eu un mari, puis elle l'a trouvé. Oh, qu'une chance de bonheur. Alors elle était désespérée. Et pendant que je priais, et que le Seigneur me montrait que c'est un mari, qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qui peut donner le bonheur à un homme? Qu'est-ce que nous avons, nous autres, dans notre corps? Nous avons combien de sens? 500. Eh bien, quand je lis l'Écriture, j'apprends que tous ces sens ne peuvent pas nous satisfaire. Et tant que vous voulez être satisfait, trouver le bonheur par vos sens, eh bien, vous n'arrivez pas, et c'est la déception. C'est vrai ou c'est faux? Ecclésiaste, chapitre 1, verset 8. Toute chose se fatigue au-delà de tout ce qu'on peut dire. L'œil, donc la vue, ne se rassasie pas de voir. Et l'oreille, donc l'ouïe, ne se rassasie pas d'entendre. Donc il y a lassitude. Si ce sont nos sens qui nous conduisent, qui nous dominent, eh bien, nous n'avons pas la paix. Que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue, que ce soit l'odorat, on veut respirer tous les parfums possibles, et puis on n'est pas satisfait. Alors, le goût, on veut goûter à tout, et on en a des indigestions. On veut goûter, mais aussi on veut toucher à tout. Et quand on a touché à tout, on n'a plus rien. Et alors, celui qui nous a fait croire que nous pourrions avoir le bonheur par nos sens, en étant liés à nos sens, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, moi, je vais t'en marier. Et qui est celui qui nous tenterait? C'est Satan. Alors, celui qu'elle avait et qui n'était pas son mari, c'était ça. Une âme qui est là sans le Seigneur, qu'est-ce qui la domine? Qu'est-ce que Jean nous dit? Vous avez pour père le diable. C'est le diable qui nous asservit à nos sens. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui que tu as maintenant, parce qu'il reste toujours, hein, c'est Satan, il n'est pas ton mari. Tu peux le quitter. Et il y a possibilité pour vous de quitter. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que vous allez trouver le septième. Et qui est le septième? C'est Jésus. Le Messie, je le suis, moi, qui te parle. Ce ne sont pas les sens qui vont vous satisfaire. Ce n'est pas celui qui vous a asservi à vos sens, comme le Seigneur le lui a montré, qui va vous dominer, parce que vous pouvez le laisser. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est la grande délivrance. Et je vous laisse avec cette délivrance. Celui que tu as, qui te domine maintenant, si ce n'est pas Jésus, n'est pas ton mari. Tu peux le laisser. Et alors, tu prendras le septième, qui est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prendra le septième et qui cherchera à comprendre tout ce que l'Écriture veut lui dire? Bien, il y a eu plusieurs conversions dans ce sens au sujet de ce chapitre 4 de Jean, et je souhaite qu'il y en ait aussi parmi nous ce soir. Et demain, si le Seigneur le permet, alors nous nous occuperons encore de quelques versets dans le culte que nous désirons offrir à notre Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient, et c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse dans cette soirée et qu'il nous prépare les uns et les autres pour qu'on ait un culte où nous sentions, nous éprouvions la présence du Seigneur Jésus. Est-ce que nous le réaliserons? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il sera là demain? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis un homme qui croit à la présence réelle, parce qu'il l'a dit, que quand on se rassemble deux ou trois en son nom, comme des frères et des sœurs, il est là au milieu de nous. Et s'il est là, nous avons celui qui est les délices du Père, qui a pleinement satisfait le cœur infini du Père Céleste, et qui peut nous remplir. Figurez-vous que nous pourrions être remplis du bonheur de Dieu, alors quelle louange pourrait monter à Dieu dans la journée qui vient. Dieu notre Père, nous ne voulons pas nous séparer sans te demander de continuer ton œuvre dans chacun de nos cœurs, de nous montrer à quoi nous sommes liés, si nous sommes encore sous le pouvoir de ces maris qui ne nous ont pas satisfaits, ou si nous sommes encore sous le pouvoir de ce sixième qui nous a rendus esclaves, et dont tu dis, celui que tu as n'est pas ton mari. Ce n'est pas Satan qui doit nous dominer, c'est toi, ô Jésus, le Messie qui t'est révélé à la femme samaritaine. Donne-nous cette conviction de péché qui seule fait ainsi brûler nos cœurs de reconnaissance pour celui qui nous a tirés de ce terrible esclavage. Nous te le demandons de tout notre cœur en te priant de nous accompagner les uns les autres et d'être celui qui nous parle encore durant les veilles de cette nuit pour l'honneur et la gloire de notre Père des cieux, dont nous voulons être les enfants sur la terre. Amen.
Thank you.